Alors, Pierre-Yves, on a mis la table avec Raphaël Jacob. Donald Trump a donc choisi Jerome Powell pour diriger la Réserve fédérale américaine en continuité avec la politique de Janet Yellen.
Oui, un homme de 64 ans, dans le fond, on vise quelqu'un qui est à peu près en fin de mandat vers le même âge que Janet Yellen. Donc, on va dans la continuité parce que on a un plan bien précis aux États-Unis. On se dit, on veut rester à des taux d'inflation près du 2%, on s'approche et on s'attend qu'en décembre, il y ait une hausse du taux directeur, bien qu'il n'y en ait pas eu récemment pour laisser la transition se faire. Mais on est à 1,25% maintenant dans le haut de la fourchette et ça continue. On va tendre vers l'augmentation parce que faut que tu contrôles ton taux d'inflation autour de 2%. Comme au Canada, on est entre 1 et 3, la cible. Donc, s'il y a une amélioration de l'économie américaine, si on peut augmenter les taux pour permettre de se garder une marge de manœuvre pour intervenir lorsque ça va mal. Et on se souvient qu'en 2008, les taux étaient à plus de 3%. Et là, dans le moment, on est à 1,25.
Il y avait une bonne nouvelle pour Bombardier. Ce matin, on a annoncé qu'on avait obtenu d'un client européen qui n'a pas encore été identifié, Pierre-Yves, une lettre d'intention pour l'achat de 61 avions de la C-série.
C'est la stratégie Bombardier souvent, hein? Il y a des états financiers à publier. On met une nouvelle en même temps. Il y a toujours une nouvelle avec des résultats financiers. Là, on nous dit on a une lettre d'intention, 31, assortie d'une option de 30 de plus. C'est une bonne nouvelle. On fait lien avec Airbus, évidemment. Donc, on comprend un peu. Lorsque Bombardier avait besoin du sceau, ça encourage du sceau d'approbation d'un plus gros transporteur. Ça encourage peut-être des clients à acheter des avions de la C-Series en se disant on n'aura plus de problème de liquidité parce que dans les résultats, encore une fois, 117 millions de pertes sur 3,8 milliards de revenus. Et quand on regarde les résultats sectoriels, qu'on voit la distinction des types de revenus, c'est sûr que le transport, c'est le gros de tout, c'est plus de 2 milliards de revenus. Mais quand on regarde le résultat avant intérêts et impôts, l'espèce de résultat d'exploitation, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui plombe les résultats, c'est quoi, Paul? Les avions commerciaux avec 95 millions de pertes et aussi le siège social, donc l'élimination du siège social, l'attribution. Mais en somme, c'est vraiment tes avions commerciaux qui t'aident pas parce que au niveau des avions d'affaires et du transport, tu fais du profit. Et quand on regarde les liquidités, mais là, encore une fois, ce qu'on parlait au dernier trimestre existe encore, c'est-à-dire on a encore brûlé 208 millions de liquidités dans l'exploitation, près de 300 millions dans l'investissement et on est allé chercher un peu de financement.
Un demi-milliard pour la baisse du niveau des liquidités de l'entreprise.
On est rendu à 1,8 milliard de liquidités quand on était à plus de 3 l'an dernier. Donc, tu vois un peu, on fait fondre les liquidités et c'est important d'aller faire des ventes pour aller récupérer des sommes.
Je rappelle aux gens que les deux seuls clients qui opèrent présentement des avions de la C-Série, c'est Air Baltic et Swiss. En Europe, apparemment, ils sont très satisfaits de l'appareil.
Bon, pendant ce temps-là, l'action a pris 6 % Paul.
Bombardier, donc, maintenant, nous allons passer aux hausses des cotisations au régime des rentes du Québec.
Oui, Québec ne voulait pas bonifier le régime des rentes du Québec parce qu'il avait compris une chose. Au Québec, on est une province pauvre. Et qui dit province pauvre dit possibilité de recevoir du supplément de revenus garanti qui venait du fédéral pour les retraités à faible revenu. Et si on demandait aux moins nantis du Québec de cotiser davantage au régime des rentes du Québec, on venait bonifier, mais en même temps, on venait appauvrir les gens parce que eux perdent du supplément de revenus garanti de l'autre côté du fédéral. Donc, on parle des transferts fédéraux quand on demande aux gens de se ramasser une retraite quand on est à faible revenu. Et là, le gouvernement dit, on change d'idée parce que il y a une prestation fiscale pour le revenu de travail qui va bonifier au fédéral la vie des moins nantis. Donc, ça va venir compenser. Donc là, le taux va passer de l'employé et l'employeur de 10,8 % à 12,8 %. Donc, tout Québécois aura un régime à prestation déterminée à 12,8 % donc de cotisation et ça va augmenter notre retraite et le remplacement du revenu, c'est-à-dire la part du revenu qui va venir du RRQ, va passer en bout de ligne de 25 % à 33 %. Mais ce que ça veut dire en français, c'est que le gouvernement juge que les gens doivent cotiser au Canada et au Québec davantage un régime obligatoire à prestation déterminée nationale et le reste du revenu viendra d'ailleurs. Et on veut enlever un peu de liberté aux gens parce qu'on ne croit pas que les gens sont assez, disons, capables de contrôler leurs finances pour générer une retraite. Et ça enlève le choix aux gens d'investir dans l'immobilier ou ailleurs en bourse ou selon leur propre désir d'investissement en ayant une retenue à la source obligatoire. Évidemment, ça aide la moyenne des gens à avoir une meilleure retraite. Et qui dit meilleure retraite pour la moyenne des gens dit moins d'obligations collective de payer. Parce que s'il y a beaucoup, beaucoup de cigales qui n'épargnent pas pendant leur vie et qui ne planifient pas leur retraite, ça fait beaucoup de poids sur les autres qui, eux, ont planifié au niveau du fiscal. Donc, il y a une injustice individuelle de ne pas de voir les autres ne pas s'occuper de leur retraite. Et c'est ce que le gouvernement essaie de rétablir un peu. Balancer tout ça, Paul.
Merci, Pierre-Yves. À demain.
Merci, Paul.